Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Une expérience citoyenne, l'Almagar. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce premier numéro de La Valeur de l'Homme sur les ondes de Fréquence protestante. La Valeur de l'Homme est une émission qui entend valoriser et diffuser le plus largement possible les derniers acquis des sciences sociales, toutes disciplines confondues. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une expérience démocratique citoyenne et urbaine particulière des années 1970, celle du quartier de l'Almagar, en deux mots, Almagar, un quartier de Roubaix, d'environ 3000 habitants, en grande partie ouvriers et émigrés, un quartier dont les habitants se sont mobilisés contre sa destruction programmée et qui ont inventé des formes inédites, plus ou moins spontanées, de délibération et de passage aux politiques. Se plonger au présent dans l'action des résidents de l'Almagar permet de s'arrêter sur l'imagination protestataire des citoyens quand ils ne sont pas cornaqués par des partis ou des syndicats. C'est voir aussi des formes renouvelées de démocratie locale sans le truchement des pouvoirs publics, notamment du pouvoir municipal. Or, il se trouve que depuis plusieurs années, les questions de la démocratie participative et de la démocratie délibérative sont au cœur de la réflexion politique et des recherches universitaires. Avec l'idée, non sans lyrisme parfois, qu'à côté ou même contre la représentation politique et la professionnalisation politique, la participation citoyenne serait une manière d'émanciper les citoyens, de les politiser et de résoudre la fameuse crise de la représentation qui abîme nos vieilles démocraties justement représentatives. Ainsi, les habitants de l'Almagar ont pour un temps tenu leur destin en main. Pour s'approcher d'eux au plus près, je reçois aujourd'hui Paula Cossard et Julien Talpin, auteurs d'un livre socio-historique dense et informé sur ce quartier roubaisien qui s'intitule « Lutte urbaine, participation et démocratie d'interpellation à l'Almagar » et qui est paru aux éditions du Croquant dans la collection Sociopo en 2015. Bonjour Paula Cossard.
Bonjour.
Paula Cossard, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Lille 3 et membre du prestigieux Institut universitaire de France. Vous êtes spécialiste de la participation politique et des meetings, auquel vous avez consacré un ouvrage de sociologie historique, Le meeting politique de la délibération à la manifestation 1868-1939, paru aux presses universitaires de Rennes en 2010. Votre autre spécialisation porte sur la sociologie des émotions et des mœurs, et vous avez ainsi publié en 2005 une correspondance entre deux amants du 19e siècle qui s'intitule 25 ans d'amour adultère. C'était chez Fayard. Je reçois aussi aujourd'hui Julien Talpin, le co-auteur. Bonjour Julien Talpin.
Bonjour.
Julien Talpin, vous êtes chargé de recherche en sciences politiques au CNRS, spécialiste de la démocratie délibérative et de la politisation des citoyens. Vous avez notamment publié un ouvrage en anglais qui s'intitule, alors je traduis le titre, Les écoles de la démocratie, comment les citoyens deviennent parfois compétents sur les budgets participatifs. La traduction vous convient ?
Très bien.
Bon, c'est paru aux presses de l'ICPR en 2011 et vous avez co-dirigé en 2014 un livre que j'aime beaucoup sur la série The Wire, L'Amérique sur écoute, qui était publié aux éditions La Découverte, et vous collaborez tous les deux activement à la revue Participation. Alors, est-ce que vous pouvez, Julien Talpin, on va commencer par vous, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce quartier de l'Almagar tel qu'il se donne à voir dans les années 70, quoi ? Qu'est-ce qui se passe et quels sont les projets qui le concernent ?
Alors, l'Alma, ou l'Almagar, c'est un quartier typiquement ouvrier du Roubaix de la fin de l'industrie textile, au fond. C'est un quartier qui a été construit à la fin du 19e siècle. Et donc, c'est des petites courées, donc des maisons de, en général, un, parfois deux étages, qui sont assemblées autour d'une cour et qui étaient en général assez proches des usines, et notamment de l'industrie textile qui était dominante à Roubaix jusque dans les années 70. Mmh. Et donc, ça, c'est un quartier qui rassemble principalement des ouvriers et aussi beaucoup des gens issus de l'immigration, polonaise, italienne, portugaise, mais également issu d'Afrique du Nord. Et au milieu des années 60, en fait, ce quartier devient largement insalubre. Et donc, il y a des projets, à la fois issus des habitants et des pouvoirs publics, pour le rénover. Et c'est en partie contre ces projets que vont s'organiser les habitants de l'Alma autour de l'atelier populaire d'urbanisme.
L'argumentaire de la municipalité, Paul Acossard, c'est de dire il faut moderniser. On est dans une période où il faut détruire des choses et rebâtir à partir de zéro. Et l'Almagar est pris dans ce mouvement-là de progrès, de modernisation, en tout cas dans les discours politiques.
Oui, effectivement, l'industrie textile est alors en pleine crise et l'Almagar, qui est principalement, comme Julien l'a dit, composé d'ouvriers retraités ou chômeurs, mais tous liés à cette industrie, du coup, est un quartier un peu qui ne bouge pas et qu'il faut rénover. L'idée de la mairie socialiste, c'est en gros d'attirer les classes moyennes, de faire de l'Almagar un quartier du secteur tertiaire, plutôt donc qu'un quartier habité par des ouvriers. Et du coup, de faire partir, c'est la conséquence inévitable, une partie de la population pauvre qui y réside.
Et qui ne serait pas relogée au même endroit. C'est ça aussi l'un des enjeux. En tout cas, pas tout le monde. Tout le monde ne serait pas relogé à l'Almagar.
C'est un des points sur lesquels la population de l'Almagar et les militants qui ont mené le mouvement sont particulièrement attentifs. C'est qu'ils voudraient rester au même endroit, effectivement, et ça va être un des enjeux fondamentaux de la lutte.
D'accord. Et du coup, alors ce quartier, c'est sa particularité, c'est pour ça que vous avez voulu travailler dessus, va se mobiliser contre ce projet de rénovation. Alors avant de voir les formes de cette mobilisation, on va s'arrêter quand même sur les formes, mais est-ce qu'on peut voir d'abord les conditions de mobilisation, Julien Tapin? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce quartier, par exemple dans sa sociabilité ou dans la composition sociologique de ses habitants, qui a pu faire qu'il s'est mobilisé ou qu'il s'est mobilisé plus facilement que d'autres quartiers?
Alors effectivement, la sociabilité assez dense, issue à la fois de la forme urbaine, le fait que les gens vivaient dans la promiscuité, au fond ces courées dont je parlais à l'instant, permettent ou créent en tout cas une proximité physique très forte entre les gens, et donc des liens de sociabilité extrêmement forts. Les gens se rendent des services, se connaissent, les parents gardent les enfants des uns et des autres, et donc tous ces liens sociaux ordinaires entre les gens, c'est à la fois pour ça que les gens se mobilisent, pour les conserver. Ils ont peur que, en détruisant ces maisons et en construisant des bars et des tours, et bien c'est tous ces liens ordinaires qui disparaissent, et c'est aussi ces liens qui vont permettre cette mobilisation, puisque si quelqu'un veut participer, il va pouvoir aussi entraîner toute sa famille ou ses amis derrière. Autre élément favorable à la mobilisation, c'est ce qu'on appelle l'immédiateté des besoins, c'est-à-dire que c'est la misère. C'est-à-dire que à cette époque-là, l'Alma est, je dirais pas proche d'un bidonville, mais c'est en tout cas des conditions extrêmement difficiles d'existence, et donc les gens ont un intérêt immédiat à participer et à s'engager pour améliorer leurs conditions de vie.
Ça les concerne directement au fond, c'est-à-dire que vraiment ce qui va se bâtir, il faut vraiment que ça les serve directement.
Alors on fait beaucoup de parallèles dans l'ouvrage avec un certain nombre d'expériences de démocratie participative aujourd'hui, sur lesquelles on a pas mal travaillé. Et un élément effectivement assez frappant, c'est de voir que autant aujourd'hui on fait souvent participer sur des questions relativement secondaires, sur la couleur de tel ou tel aménagement urbain, sur le type de jeu qu'on va installer pour les enfants, alors qu'à l'époque, dans les années 70, dans le cadre de cette expérience, c'est effectivement des questions tout à fait fondamentales, à savoir est-ce que je vais continuer à vivre dans un quartier où j'ai mes attaches et mes habitudes, et est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre près de mes proches. Et donc c'est effectivement des conditions tout à fait favorables à la mobilisation.
Parmi ces conditions, Paula Cossard, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des leaders qui émergent? Alors vous évoquez beaucoup un couple qui a l'air très intéressant et touchant et très actif, qui sont Marie-Agnès et Roger Léman, qui sont des gens qui viennent de la jeunesse ouvrière chrétienne, qui vont jouer un rôle moteur. Alors est-ce que ce sont des leaders? Est-ce que ce sont des gens qui arrivent avec déjà une habitude du militantisme et qui vont au fond transférer ce qu'ils savent faire sur leur propre quartier?
Oui, effectivement, dans la réussite des habitants pour s'imposer donc face à la municipalité comme interlocuteur légitime, il y a forcément un rôle essentiel des leaders de la lutte, le couple Le Mans en particulier, hein, qui est vraiment fondamental, donc qui est lié à l'APF, Atelier Populaire des Familles, donc syndicalisme chrétien, etc. Mais le couple Le Mans est rejoint lorsque l'Atelier Populaire d'Urbanisme est fondé en 74. C'est ça qui est un peu extraordinaire à l'ALMA. Il est rejoint par des ex-68ards, pour aller vite, ouais. Notamment des Mao un peu en mal d'engagement après la dissolution de la gauche prolétarienne ou d'autres groupes d'extrême gauche qui vont s'allier avec les Le Mans pour mener la lutte. Alors c'est pas une lutte qu'il mène seul, hein, il l'amène avec les habitants, mais effectivement le rôle des leaders est fondamental, et c'est ces leaders qui ont su vraiment allier pour réussir à la fois, enfin ce qu'on montre dans le livre, à la fois le fait de créer des lieux de délibération et le fait de mener des actions collectives spectaculaires, et c'est l'alliance des deux qui marche.
Ouais. Julien Talpin, est-ce que si on reste sur le couple Le Mans, est-ce que leur socialisation chrétienne joue un rôle dans, je sais pas, l'altruisme, des formes de conscientisation dans le rapport à l'autre, dans le rapport au quartier, ou est-ce qu'il faut pas surévaluer ce rôle-là de leur socialisation chrétienne?
Alors je crois que ce rôle est absolument essentiel. En fait, nous, on a été frappés de la rencontre de ces univers politiques et militants très différents. D'un côté, effectivement, ces militants chrétiens, et de l'autre, ces militants maoïstes, qui, en dépit de leurs différences, partagent beaucoup de choses et une forme de croyance quand même très profonde dans la nécessité de la participation populaire. Le couple Le Mans a été formé notamment au JOC, aux Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, effectivement, où le voir, juger, agir est quelque chose de tout à fait essentiel dans la philosophie, mais aussi dans les actions qui sont menées. Et donc les Le Mans, dès les années 60, donc avant même que véritablement la mobilisation prenne forme, mettent en place tout un certain nombre d'actions sur le quartier. Alors c'était la machine à laver collective, par exemple, où on rendait service aux voisins, on faisait passer les machines à laver d'une maison à l'autre. Plein de choses très concrètes, au fond, mais qui reposaient effectivement sur des formes de solidarité très fortes.
Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que les partis politiques, et notamment le Parti communiste qu'on aurait pu imaginer très présent, structurant, au fond, se tiennent à distance. Je ne sais pas qui veut en dire un mot entre vous deux.
Non, ils sont effectivement très peu présents. Alors, lorsque la lutte a vraiment marché et donné ses fruits, évidemment, tout le monde va dire « j'y étais », y compris les partis politiques, enfin, en tout cas une partie d'entre eux. Le parti qui aura peut-être joué le rôle le plus important, c'est le centre roubaisien. Pourquoi ? Parce que le centre roubaisien a permis aux Le Mans et à leurs alliés d'obtenir le financement de quelque chose qui est essentiel dans la réussite de la lutte, qui est l'aide technique aux habitants, la BAC, qui va être financée par le ministère de l'Équipement via donc ce réseau centriste roubaisien. Donc là, il y a peut-être un rôle qui est effectivement essentiel, mais sinon, on voit extrêmement peu les partis apparaître plutôt, ni les syndicats d'ailleurs.
Ils sont plutôt absents, Julien Talpin.
Je crois que c'est un élément aussi qui rend l'histoire qu'on raconte dans ce livre très actuelle, c'est-à-dire c'est comment on peut mobiliser les quartiers populaires en l'absence à la fois de partis politiques puissants et des syndicats. Et qui est une question tout à fait actuelle aujourd'hui, où les partis politiques et les syndicats sont quasiment absents des quartiers populaires. Et à l'époque, à l'ALMA, c'est un peu déjà la même chose. Du fait de la crise de l'industrie textile, les syndicats sont plus très présents. Et les partis politiques sont surtout affairés par les affaires municipales et très peu présents aux côtés des habitants. Et c'est pour ça que d'autres organisations vont devoir se mettre en place pour prendre en charge la colère et les inquiétudes des habitants.
L'Almagar entre, dites-vous, dans une période de meeting permanent, avec notamment la création en 1974 du principal levier d'action du quartier, qui est l'atelier populaire d'urbanisme. Alors peut-on dire un mot des formes de ce meeting permanent, Paula Cossard ?
Alors oui, cet atelier populaire d'urbanisme, ce qui est important, c'est qu'il va organiser une réunion hebdomadaire chaque mercredi. Qui va se tenir à peu près pendant 10 ans.
Donc, jusqu'en 1983.
Voilà, il faut imaginer vraiment, pendant 10 ans, on sait qu'il y a un lieu où on peut se rendre pour parler des problèmes du quartier, où tous les habitants peuvent se rendre, qui est ouvert à tout le monde pour parler des problèmes du quartier, le mercredi, donc en début de soirée, dans un local qui est un local avec une vitre, donc on peut voir de l'extérieur, dans lequel on peut facilement pénétrer sans être trop intimidé. Et ce qui est important dans cette réunion, c'est que les habitants viennent y parler de leurs problèmes concrets, de tous les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, et que les militants notamment vont faire un travail de politisation de ces problèmes. Ils vont essayer d'essayer de résoudre ces problèmes, mais aussi de monter en généralité à partir de ces problèmes individuels.
D'accord. C'est-à-dire, au fond, la politisation, c'est la, vous avez dit la montée en généralité, c'est-à-dire, au fond, neutraliser un problème individuel ou généraliser un problème individuel et essayer de faire monter ça en disant, il y a un problème collectif, il y a un problème social. Est-ce qu'on peut dire que la politisation, en tout cas dans ces réunions, ce serait quelque chose de cet ordre-là, Julien Talpin?
Je crois que la politisation, dans ce cas-là, renvoie aux racines et aux causes structurelles des problèmes très concrets que vivent les habitants. C'est-à-dire que renvoyer une coupure d'eau, des problèmes de chauffage, d'électricité, un logement insalubre, non pas au hasard ou à des soucis quotidiens, mais à certains jeux institutionnels, à certaines formes d'organisation et de législation sur le logement, permet d'attribuer, de repérer, d'imputer des responsabilités et de voir quels sont les responsables des difficultés des habitants et éventuellement d'en faire des cibles d'action collective derrière.
On va écouter des extraits d'un documentaire de l'époque sur l'Almagar.
La production collective d'un quartier à Roubaix.
13 septembre 77, réunion du groupe de travail à la mairie. Présent, des membres de la municipalité, de l'atelier populaire d'urbanisme, les techniciens de la BAC qui travaillent depuis un an avec la population, enfin, actuellement au tableau, l'architecte de la SAEN, Société d'aménagement et d'équipement du Nord. Objet de la réunion, s'entendre sur le schéma directeur d'aménagement du quartier Almagar.
On n'a pas été modifié en termes de population, qu'actuellement il n'y a plus que 2000 habitants sur Almagar, à peu près. Ça veut dire qu'en 2 ans, effectivement, Almagar a perdu la moitié de sa population. Et la capacité du quartier à terme, c'est 6000 habitants minimum, enfin environ 6000 habitants, 6300, bon, c'est-à-dire 3 fois la population actuelle du quartier Almagar et 2 fois la population ancienne.
Quelle est la moyenne des gens qui participent justement à ces réunions du mercredi?
Oui, alors là c'est variable, disons qu'en moyenne il y a au moins tous les mercredis, sans faire de publicité, disons, enfin de convocation, une moyenne de 30 personnes tous les mercredis. Mais alors que dans les grandes occasions, lors de réunions avec la municipalité ou alors d'actions à décider, là on pourrait presque dire qu'on joue à guichet fermé, puisque la salle est quand même relativement petite et qu'elle peut contenir, disons, une centaine de personnes, et puis que là, vraiment, c'est complet, quoi. Mais disons que ça, c'est dans les grandes occasions.
Hein. Alors Paula Cossard, dites-nous un peu ce qu'on vient d'entendre.
Oui, donc on vient d'entendre des extraits assez précieux d'un film documentaire qui a été tourné, enfin réalisé par Yvonne Mignot-Lefebvre, qui est sociologue, enfin qui était sociologue au CNRS, qui s'appelle Alma Future, la production collective d'un quartier à Roubaix, et qui est maintenant conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 2013. Donc on veut
qui a été tourné quand? Dans les années
77-78.
D'accord.
2 années, voilà.
D'accord.
Donc il y a 3 films de 30 minutes qui ont été tournés, et ensuite un montage pour un film d'une cinquantaine de minutes, grosso modo.
D'accord. Et alors là, on voit les acteurs de l'époque, c'est une vidéo, là, on les a simplement entendus. On a entendu la voix de Roger Le Mans, qui est donc l'un des militants, ou en tout cas l'un des activistes, j'aime pas le terme, en tout cas des habitants qui s'investissent beaucoup. Ces films montrent quoi? Comment ils vous ont servi comme source, en tout cas vous, pour vos recherches, Julien Telpin?
Bah, ils montrent déjà les habitants et les militants discuter entre eux. Et donc nous qui travaillons sur la délibération collective, sur la façon dont les gens échangent, discutent collectivement dans l'espace public, c'est extrêmement précieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces de ce type-là dans l'histoire, dans les archives. Et donc c'était une matière première extrêmement riche. Et une question qu'on se pose dans le livre, c'est comment faire pour qu'un collectif qui rassemble d'un côté des acteurs qui ont une expérience militante, associative, qu'on a évoquée précédemment, et des habitants qui, à l'inverse, eux, sont tout à fait profanes et ne connaissent pas très bien ce type d'espace, puissent cohabiter et que certains ne dominent pas les autres. Et c'est un enjeu vraiment, vraiment important. Et la façon dont la discussion était organisée permettait justement que, si certains parlaient plus que d'autres, évidemment, les militants, les leaders, néanmoins, les habitants ne se sentaient pas complètement dominés. Ils sentaient que la parole collective qui était portée au final, ils avaient vraiment contribué à la façonner.
Ce qu'on voit très bien dans votre ouvrage, Paula Cossard, c'est que les habitants sont présents, en tout cas au début, dans les 10 premières années, et puis qui sont en permanence en interaction avec des techniciens, des experts, des architectes, des urbanistes. Là, il se joue quand même quelque chose dans cette coprésence là. Alors, comment on pourrait le qualifier? Les habitants deviennent experts, contre-experts?
C'est difficile à dire. En tout cas, ils se constituent en contre-pouvoir. Je pense qu'on peut le dire comme ça, et c'est un élément important. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est en 75-76 qu'arrive cette aide technique aux habitants, et qui va permettre vraiment de renverser le rapport de force par rapport à la municipalité. C'est-à-dire qu'avant, grosso modo, l'expertise était du côté des élus, des pouvoirs publics. Les habitants, eux, ne savaient pas. Or,
savoir, c'est pouvoir.
Oui, voilà. Et donc finalement, lorsque la technique arrive, elle va permettre aux habitants à la fois de définir un quartier conforme à leur souhait, de montrer aussi qu'il y avait des erreurs dans l'évaluation qu'avait fait la municipalité du taux d'insalubrité du quartier. Ça, c'est important. Ces experts vont montrer que le quartier est bien moins insalubre qu'il n'était annoncé, et que donc finalement il y a moins à raser qu'à reconstruire et rénover. Mais en tout cas, pour les habitants, ça va être une forme de prise de pouvoir, le fait d'avoir cette expertise technique indépendante, financée par l'État et à leur service.
Donc au fond, est-ce qu'on pourrait dire, Julien Telpin, que la participation dans ce type de réunion, ça fait littéralement apprendre l'action politique, ou ça permet l'action politique?
Alors, c'est une question qu'on pose dans le livre, et la réponse est nuancée, je pense. C'est-à-dire que d'un côté, les habitants ont appris aux côtés des architectes, aux côtés des militants, un certain nombre de savoirs, de savoir-faire. Ils sortent quand même un petit peu plus compétents sur toutes ces questions. Néanmoins, si leur expérience du quartier, du territoire, a pu nourrir le contre-plan de rénovation du quartier qui est finalement proposé à la municipalité, ils ne sont pas pour autant devenus venus des experts ou des architectes à la place des architectes. Je crois que chacun reste au final à sa place. Et si les habitants montent en compétences, ils restent des habitants.
D'accord. Vous parlez, alors c'est le sous-titre du livre, hein, une démocratie d'interpellation. Alors précisément, qui est interpellé? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les maires successifs? Est-ce que ce sont les architectes, les premiers architectes qui étaient chargés de la rénovation? Qui est interpellé? Et est-ce qu'on peut dire qu'au fond, cette petite expertise des habitants que vous nuancez évidemment permet cette interpellation? Voilà. Qui est interpellé et est-ce que l'expertise permet l'interpellation pour la COSAR?
Alors, si on a parlé d'interpellation plutôt que de démocratie participative, c'est notamment pour se décentrer par rapport à la démocratie participative, classique, disons, telle qu'on la connaît aujourd'hui, institutionnelle, qui vient d'en haut. Là, on a affaire à une démocratie, donc on appelle d'interpellation, c'est-à-dire une démocratie où la participation émerge d'en bas et de façon autonome des pouvoirs publics. Donc, ceux qui sont interpellés, ce sont les pouvoirs publics. À la différence donc de la démocratie participative institutionnalisée et imposée d'en haut, qui a subi pas mal de critiques récemment, il s'agit vraiment de concevoir un intérêt général par la confrontation des points de vue au niveau des habitants, donc au niveau de l'APU, qui va ensuite porter une parole politique autonome auprès des pouvoirs publics.
D'accord, c'est eux qui vont finalement être cette espèce de mini-institution pérenne qui va devenir finalement l'interlocutrice. L'atelier populaire d'urbanisme devient l'interlocuteur des pouvoirs publics, on peut dire ça, Julien Talpin?
À notre sens, la démocratie d'interpellation qui se dégage à l'Almagar et qui, à certains égards, peut je pense, inspirer les pratiques démocratiques aujourd'hui, repose sur deux niveaux. D'un côté, on a ce que Paula appelait tout à l'heure un des contre-pouvoirs, qu'est l'atelier populaire d'urbanisme, un espace de participation avec la réunion du mercredi, où les habitants, sans les élus, sans les institutions, vont forger une parole, une position collective pour le quartier, et dans un deuxième temps, deuxième pan de cette démocratie d'interpellation, des espaces où cette parole collective va pouvoir interpeller les élus, rentrer en confrontation, éventuellement en négociation, pour parvenir à une position collective. À l'inverse, souvent dans les espaces de démocratie participative contemporains, ces deux moments sont comme fusionnés, tout est mélangé, si bien que souvent ça empêche réellement l'expression autonome des habitants. Et donc en distinguant ces deux séquences et ces deux espaces de participation, il nous semble que la démocratie est plus riche.
Alors vous parlez d'une inspiration pour aujourd'hui. Dans l'introduction de votre livre, je vous cite, vous écrivez « Le regard vers le passé que nous proposons ici et plus précisément vers une des expériences les plus radicales et novatrices en matière de construction des habitants peut également constituer un moyen de réélargir l'imaginaire pour quiconque s'intéresse au devenir des quartiers populaires. » Alors est-ce qu'on peut dire que votre intérêt d'historien ou de sociologue pour cette expérience vient précisément de ces enseignements-là de l'Almagar? Et est-ce que vous cherchez dans le passé des idées pour la démocratie délibérative d'aujourd'hui? Paula Cossard. Les deux.
J'ai envie de dire façon un peu caricaturale, que on pourrait penser que c'est un livre d'histoire, mais en fait, l'histoire, elle n'a de sens à nos yeux que pour nourrir les réflexions contemporaines, pour revenir, interroger le présent de façon un petit peu décalée, en posant des questions qu'on ne se poserait pas forcément naturellement sans regarder ce qui s'était passé à cette époque-là. Donc on part d'un constat qui est un constat présent, la crise de la démocratie représentative, la faiblesse de la démocratie participative institutionnalisée, je l'ai dit, et on essaie de regarder dans le passé si on peut trouver les sources d'inspiration pour approfondir la démocratie et résoudre ces difficultés, ces problèmes.
Parce que, au fond, c'est une expérience qui vous a intéressé, parce qu'elle a marché, en tout cas, dans une grande mesure, et que peut-être il y a des formes à reprendre et à importer du passé vers le présent, Julien Talpin.
Un des points de départ de nos réflexions, effectivement, c'est de se dire que dans le cas de l'Almagar, la parole des habitants a été entendue. Ils ont eu gain de cause au final, et le quartier va être rénové selon leurs désirs très largement. Ce qui contraste très fortement avec ce qu'on observe dans la plupart des expériences participatives contemporaines. Moi, je suis sociologue, je travaille principalement sur le contemporain, et où à l'inverse, la plupart du temps, les habitants ne sont pas entendus. Et donc, c'est cette interrogation-là. Qu'est-ce qui fait que dans ce cas-là ça a pesé. Et donc on tire toute une série de conclusions qui permettent de comprendre comment aujourd'hui on pourrait imaginer des espaces démocratiques précisément où la parole des classes populaires, des habitants qui sont peu entendus, notamment peu entendus via les mécanismes représentatifs, au regard notamment de la montée de l'abstention, ces gens sont peu entendus puisse s'exprimer.
Il y a une forme d'autogestion, mais qui là concerne un quartier et pas une entreprise, parce qu'on pense immédiatement à LIP, hein, que vous citez dans le livre et qui est contemporain. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un quartier donc qui va regrouper des gens qui ont une communauté de destin géographique, mais pas nécessairement un même métier ou une même profession. Est-ce que c'est ça aussi qui est intéressant, le fait qu'il y a cette dimension urbaine, géographique, Paula Cossa?
Oui, l'idée d'autogestion est absolument fondamentale. D'abord, la référence à LIP est une référence explicite hein, pour les gens de l'APU. Ce que l'on n'a pas dit encore, c'est qu'après s'être intéressé à des questions d'urbanisme, les habitants et militants vont s'intéresser à la gestion de la vie quotidienne dans le quartier. Et vont essayer de faire de l'Alma une sorte de quartier autogéré, si on peut dire, en créant des SCOP, des coopératives de bâtiments de menuiserie, une imprimerie collective, etc. À la fois pour donner de l'emploi dans le quartier, mais aussi pour que les habitants participent à la résolution des problèmes quotidiens dans le quartier.
Ce quartier, il est reconstruit finalement, c'est-à-dire que les habitants obtiennent gain de cause en partie. Alors, c'est pas une réussite absolue. Enfin, vous nuancez l'idée de réussite ou d'échec, c'est pas complètement ce qui avait été pensé, mais quand même, dans ce rapport de force, c'est un peu favorable aux habitants de l'Almagar, finalement, Julien Telpin.
Effectivement, il l'emporte à court terme. Le quartier va être rénové assez largement selon les plans qui avaient été définis par les habitants et à l'encontre de ce que souhaitait la municipalité, puisque au final, il est beaucoup moins rasé que ce que souhaitait la municipalité au début des années 70. La forme urbaine demeure assez proche de celle de la Courée, en tout cas dans l'idée des habitants, et donc c'est une victoire à court terme. Néanmoins, une des grandes difficultés, et les gens qui habitent à Roubaix en ont bien conscience, c'est que cela ne va pas empêcher la paupérisation très forte en fait, hein, des habitants du quartier, dans un contexte de montée du chômage, de fermeture des usines. Et donc, le quartier va devenir néanmoins un espace de relégation sociale très fort et demeure encore aujourd'hui un des quartiers les plus pauvres de France. Et donc, c'est un peu ce paradoxe qu'on essaye également d'interroger à la fin de l'ouvrage. C'est comment on a pu à la fois être l'espace d'une des expériences démocratiques peut-être les plus riches de ces dernières décennies, et en même temps ne pas empêcher cette paupérisation très forte.
C'est-à-dire qu'au fond, l'expérience, elle est très belle et en même temps, elle est un peu mitigée avec le recul historique qu'on peut en avoir pratiquement 40 ans après, pour le COSA.
Oui, alors quand on dit qu'elle est mitigée, ça n'enlève rien à la réussite, c'est-à-dire au fait que les habitants se sont imposés comme co-décideurs. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Ensuite, sur la réalisation du quartier, il y a eu des problèmes. Il y a eu d'abord le fait que les travaux ont traîné, ce qui a entraîné le départ d'une grande partie des habitants, ce qui a entraîné une dégradation des immeubles et donc finalement leur destruction et reconstruction. Donc finalement, on a reconstruit plus qu'il n'était prévu au départ. Il y a eu aussi un effet qui est assez sournois, c'est la revanche en quelque sorte que les institutions ont voulu prendre contre l'APU, contre l'ALMA, avec, alors on étudie ça finement dans le livre, mais toute une politique de peuplement assez pernicieuse qui vise grosso modo à mettre à l'ALMA les populations les plus en difficulté et à y concentrer donc la pauvreté la plus importante de la ville.
Mmh. Le mouvement, le mouvement s'épuise finalement une fois que le quartier est rebâti, on peut dire ça, Julien Telpin?
Oui, il y a plusieurs mouvements. C'est que d'un côté, il y a une forme de professionnalisation des militants qui sont aguerris par tous ces combats et puis qui ont aussi envie de s'investir ailleurs, en fait, qui sont un petit peu usés. Et une des difficultés a été celle de pas véritablement réussir à former la relève. Et donc, il a peut-être manqué à l'ALMA un espace d'éducation populaire plus permanent qui aurait permis à un moment aux militants de passer la main à de nouveaux habitants.
Merci beaucoup. Cette émission s'achève. Je tiens vraiment à vous remercier pour la Cossa à Julien Telpin d'être venu. Merci aussi à Michèle Gaillard, directrice des programmes, qui a permis que cette émission existe, et à Emmanuel aujourd'hui à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission. À très bientôt.